Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse sur votre radio, la 93.5. Le Tchad a annoncé tout récemment qu'il ne veut plus alors de contingent français sur son territoire. Le départ des soldats français est effectif depuis le mardi dernier. Comment expliquer ce divorce entre la France et le président tchadien qui reçoit désormais le titre de maréchal? Je poserai la question à mes confrères journalistes dans ce studio avec moi. Et nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité de notre pays, le Togo, et aussi à l'heure du monde entier. Et merci de nous choisir et bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou au micro. Merci à vous tous pour votre franche fidélité alors à cette émission. Vous qui nous suivez surtout partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière, à Déro Radio, La Paix, à Takwame, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Et là vous comprenez que nous sommes suivis alors partout au Togo. Nous sommes également suivis partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais également, vous pouvez nous suivre aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi et aussi des analystes, bien sûr. Confrères journalistes en studio avec moi, déjà c'est Firmin Teko Agbo. Firmin, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Ouais, je vais bien, par la grâce de Dieu.
C'est l'essentiel.
Oui, bien évidemment. Donc, c'est lui qui est avec nous. Sans lui, on ne serait pas ici. Donc, nous voudrions tout le temps lui exprimer toute notre gratitude pour ses bienfaits dans notre vie. Si des gens milliardaires, multimilliardaires peuvent toujours se permettre de reconnaître que Jésus est le boss, alors pourquoi pas nous qui n'avons pratiquement rien. Alors, ne pas le faire serait vraiment ingrat, injuste et vraiment ignorant.
Merci Firmin d'avoir répondu à notre invitation. L'autre qui a répondu aussi à notre invitation, qui n'a même pas hésité hein, quand je lui ai envoyé l'invitation, c'est Germain Pouli. Germain, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
On remercie Dieu.
C'est l'essentiel.
On remercie Dieu.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci pour l'invitation.
Gabin Adjaro, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Ah oui, on rend grâce.
Dieu merci. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Monsieur Kofi Annani, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien aussi.
La grâce de Dieu toujours.
C'est l'essentiel. La grâce de Dieu est toujours et cette grâce qui surabonde, nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour cela. Et pour dire merci à Dieu, il y a un artiste gospel qui est avec nous et qui organise un concert d'action de grâce le 22 décembre, bien sûr, le 22 prochain. C'est Emiliano, bonjour.
Bonjour, cher journaliste. Bonjour, monsieur.
Comment vous allez?
Je vais très bien, par la grâce de Dieu.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui motive d'abord un concert de Emiliano, déjà le 22 prochain?
Ok, c'est Emilio.
Emilio Blissot,
voilà. Voilà, c'est un concert, une soirée d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu. Voilà, c'est un événement que le Seigneur nous a inspiré à organiser depuis des années pour amener le peuple de Dieu à se prosterner, à adorer son nom, à lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait dans nos vies pendant toute une année et lui confier encore la nouvelle année. Voilà, donc si l'on voit tout ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies, les protections, sa préservation, etc., donc nous n'avons qu'à lui remercier pour tout ce qu'il a fait. Alors, c'est pourquoi nous organisons ce concert le 22 décembre prochain.
Concrètement, qu'est-ce qui va se passer le 22, puisque nous allons nous projeter un tout petit peu sur cette date. On va sur un dimanche, bien sûr.
Voilà, c'est un dimanche dans l'après-midi à partir de 15h. C'est une soirée où il y a beaucoup d'artistes locaux et un artiste international venant du Bénin qui sera avec nous.
Quel est son nom?
Voilà, son nom c'est Pasteur Sandé Avla. Voilà, et les autres artistes du Togo. Et nous serons dans un moment intense d'adoration et de louange. Et le thème même que nous avons donné à ce concert, c'est Teïla de la Teïla aux merveilles de Dieu. La Teïla qui exprime, qui veut dire la louange et les merveilles. Nous devons savoir qu'il y a les merveilles, les miracles qui découlent de la louange. À chaque fois qu'il y a une victoire, il y a toujours une louange au prime abord. Voilà, parce que quand on loue le Seigneur est obligé de se manifester dans nos vies. Alors, pour avoir encore beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions pour l'année qui va suivre, nous devons déjà le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Et maintenant, de là, il va encore nous préparer de grandes choses pour l'année à venir. Alors, nous serons dans un moment de louange et d'adoration. Voilà, nous allons conduire le peuple dans ces moments de louange.
De louange et d'adoration. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement à la fin, alors, ou à l'issue de cette séance de louange et d'adoration?
Voilà, à chaque fois que le Seigneur invite son peuple, et il a des choses préservées, préparées pour eux. Et il a dit dans la parole, il n'a pas appelé les enfants de Jacob de le chercher en vain sur la montagne de Zion. Mais sur la montagne de Zion, il y aura la délivrance et les peuples de Jacob posséderont leur possession. Alors celui qui vient le dimanche 22 décembre à sous la main de Dieu pour adorer, pour louer le Seigneur, il repartira avec plein de bénédictions. Il possédera l'année 2025. Surtout ça.
Et l'essentiel, c'est de posséder l'année 2025. Parce que, en tant que humain, on a besoin quand même de projeter aussi l'année et de savoir exactement de quoi l'année 2025 sera fait. Oui. Et donc, il est très important qu'on possède l'année, c'est ça.
Voilà. Et puis, notons aussi que, depuis l'année, le janvier 2024, nous avons fait des programmes, beaucoup ont fait des programmes, mais, en décembre, ils se rendent compte que je n'ai pas pu réaliser tel, et certains se plongent dans les tristesses ou des lamentations, dans les déceptions. Non, le Seigneur peut faire quelque chose en une minute. S'il reste même une minute, la louange que tu vas donner au Seigneur le 22 décembre, on va encore compter 8 jours. Avant 8 ou 9 jours, avant le 1er janvier. Alors, ce soir-là, je voudrais, nous n'aimerions pas que quelqu'un vienne dans la tristesse, mais que tu viennes dans la joie. Parce que c'est quand tu développes la joie que les problèmes sont résolus. Que l'ennemi fuit loin de nous.
Voilà. On ne peut que louer Dieu dans la joie. On ne viendra pas louer Dieu dans la tristesse. Mais l'essentiel pour ce que moi je garde alors de tout ce que vous avez dit, c'est pour posséder justement l'année 2025. Et on a besoin quand même de cela en tant qu'humain parce que nous avons aussi une dimension spirituelle.
Oui. Oui.
Et cette dimension spirituelle, il faut arriver à l'assainir et également à mettre une vision bien indiquée alors sur cette dimension spirituelle pour avoir l'année comme cela se doit. Et c'est ce que vous voulez faire bien sûr au cours de cette soirée.
Voilà.
Alors quelles sont les conditions à venir et c'est où? Parce que pour le moment nous ne disons pas aux auditeurs l'endroit où se tiendra même d'ailleurs cette soirée.
Cette soirée aura lieu sous la main de Dieu, l'église internationale sous la main de Dieu qui est située au niveau de Mesh Amina, voilà, à partir de 15h.
D'accord.
Et je veux préciser aussi que c'est un événement, c'est toute une vision, c'est toute une mission, ce n'est pas seulement la soirée là, la soirée est l'apothéose. Voilà, de temps d'activité que nous allons faire. Déjà, demain samedi à 6h du matin, sur le terrain de Sefè, il y a un gala de football qui va se dérouler entre les hommes de médias, les musiciens, les artistes, chanteurs, les community managers et les promoteurs culturels gospel. Voilà. Et après ce gala demain, le 20, nous avons une visite au niveau de la brigade des mineurs, voilà, pour le fait des dons et de partage et aussi organiser un mini concert pour leur donner la joie.
Donc, ce qui veut dire que c'est toute une batterie d'activités.
C'est
que
ça, c'est ça que nous avons mis en place.
Si vous avez un message à l'endroit de ceux qui vous écoutent actuellement pour leur dire que leur présence le 22 prochain à cette soirée, que c'est très important, alors qu'est-ce que vous allez dire aux auditeurs?
Je veux dire à quelqu'un qui veut voir la main de Dieu. Vous savez, si tu remercies Dieu pour son doigt, tu verras toute sa main. Et si tu le remercies pour sa main, tu verras en tout cas tout son corps, voilà, dans tes affaires.
Et ça, c'est fort, alors, hein, ce que vous dites.
Oui. Le cœur qui est plein de gratitude, c'est ce cœur-là qui reçoit beaucoup. Et dans cette vie, c'est un secret que beaucoup ne connaissent pas, que beaucoup ne savent pas. C'est vrai qu'on loue, mais la pratique même de la louange, l'état même de la louange, on l'a pas. On peut chanter, tu peux sauter, mais dans son fond intérieur, il se passe autre chose. Il n'est pas convaincu que, à travers cette louange, le Seigneur peut faire quelque chose. Alors, c'est ce que nous voulons communiquer le dimanche là. Alors, celui qui m'écoute en ce moment, qu'il vienne préparer avec un cœur de reconnaissance, de gratitude, qu'il oublie tout ce qu'il a comme souci, qu'il oublie tout ce qu'il a comme problème, qu'il oublie même tout ce que les gens lui disent, que de gauche à droite, qui sont négatifs, mais qu'il vienne avec un esprit positif, un cœur de reconnaissance. Je vais lui dire qu'il ne repartira pas tel qu'il est venu. Et l'année 2025, quelles que soient les difficultés que les gens auront, lui, quand il va garder cet état d'esprit, l'année 2025 sera très meilleure.
Dieu a demandé qu'on décharge nos fardeaux sur lui. Peut-être que c'est ce qui va se passer le 22. Et voilà. Qu'on vienne maintenant décharger nos fardeaux et qu'on prenne les solutions de ces fardeaux pour aller à la maison et entamer en bonne aisance, même d'ailleurs l'année 2025. Emilio, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Et on se retrouve le 22 prochain.
Le 22.
Voilà.
À partir de 15h et l'entrée est libre et gratuite.
Et gratuite. Merci. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Emilio, pour votre passage alors ici au Club de la Presse. Merci. C'est qu'on ferait. Alors, nous revenons en studio pour parler de nos sujets, débattre des sujets. Vous le savez très bien que nous parlons plus alors de l'actualité, tout ce qui se passe alors dans le pays. On fait nos analyses alors sur ces sujets. Et le principe de l'émission, c'est que déjà à partir de midi, nous donnons aussi la parole à nos auditeurs pour qu'ils s'impliquent et qu'ils participent à cette émission à travers nos deux numéros 90 86 35 35 ou 91 36 63 75 ou également notre numéro WhatsApp, c'est 90 45 78 57. Vous pouvez commencer même d'ailleurs par nous écrire sur ce numéro si vous suivez le débat et déjà opportun, nous lirons ce message à l'antenne. Alors on commence ce débat avec cette réduction des prix des produits pétroliers. Ça a été annoncé dans la semaine, c'était le mardi dernier, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de journaux qui sont revenus alors sur le sujet. Il y a le journal Le Tonnerre, Temnyansa, qui écrit « Réduction des prix des produits pétroliers, faire davantage pour soulager la classe moyenne ». Germain, oui, c'est vrai que quand on prend aujourd'hui le carburant que nous utilisons même d'habitude, c'est 20 francs. La réduction, 20 francs de réduction, et finalement, beaucoup se demandent qu'il est important qu'on fasse davantage, et c'est ce que le journal écrit.
Oui, tout à fait, parce que vous savez que le carburant, le prix du carburant a une grande influence sur le prix de toutes les autres denrées, et qu'habituellement, dans les pays où le carburant se vend cher, vous allez voir que ça se répercute automatiquement sur le transport et sur les autres prix. Donc, quand le gouvernement annonce une réduction, ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que les Togolais attendaient donc ce signal-là. Et comme ça a été fait, c'est à saluer. Maintenant, comme l'a relevé le journal Le Tonnerre et plusieurs Togolais, c'est que si le gouvernement peut faire davantage. Donc vous savez que plus on diminue, plus la cherté de la vie aussi trouve un peu une solution. Donc, les populations, voilà, s'attendent à ce que le gouvernement fasse beaucoup plus que ça. On a appris que sur l'huile, il y a eu une réduction.
Une réduction également.
Voilà, donc, ça fait plaisir aussi d'avoir ce genre de bonnes nouvelles. Espérons véritablement que les commerçants suivent un peu la tendance et que plus globalement, on voit des répercussions sur le prix des denrées. Donc, c'est tout à fait normal que les populations attendent encore beaucoup plus du gouvernement. Et parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, vous avez vu avec la crise russo-ukrainienne que le prix du carburant a augmenté, ça a créé...
Je ne sais pas si c'est ton micro ou bien c'est au niveau de la technique, mais il semble que ta voix ne sort pas en tant que telle. On laisse le temps aux techniciens alors de régler ton micro et on arrive. Alors, Firmin, oui, quand on prend aujourd'hui cette réduction, c'est vrai que c'est un pas au niveau alors du gouvernement, mais on a besoin quand même de faire plus d'efforts, surtout que les populations vivent une situation un peu difficile.
Oui, bien évidemment, moi, je ne vais pas parler beaucoup sur ce sujet parce qu'en réalité, ce n'est pas trop significatif. Cette baisse n'est pas significative. 20 francs, bon, pourquoi pas 50 francs. Moi, je sais que le gouvernement a besoin de sous peut-être pour financer un certain nombre de choses parce que le gouvernement ne veut pas dépenser beaucoup pour pouvoir subventionner ses produits de première nécessité parce que le gouvernement a d'autres défis, on lui reconnaît. Il y a assez de défis, il y a les élections qui arrivent, il y a les institutions de la 5e République où il faudra mettre en place. Cela va nécessiter d'énormes coûts. Donc peut-être c'est pour cela que la baisse n'est pas significative. Sinon, moi, j'aurais souhaité que ça soit véritablement significatif parce que moi, je veux juste m'arrêter sur super sans plomb, super sans plomb. Oui. 20 francs, donc il faut une grande consommation pour pouvoir en bénéficier. Il faut une grande consommation. Si par exemple vous prenez 10 litres, c'est combien ça? C'est 200. 200. Donc si vous ne prenez pas.
100 litres, 2000.
500 litres, 2000. Donc c'est pas grande chose, quoi. Donc moi je m'arrête juste à ça. Donc je sais, les défis sont énormes. Les défis sont importants. Il y a, les gens ne savent peut-être pas. Les institutions à mettre en place dans le cadre de la 5e République, ça va vraiment coûter cher à l'État. Il y a de nouvelles institutions, il y a de nouvelles personnalités à nommer. Il y a le Sénat qui arrive, les élections sénatoriales, 61 sénateurs. Donc beaucoup d'argent. Des cabinets à mettre en place. Donc, on sait que l'État a besoin d'argent. Mais que l'État aille chercher de l'argent. Je ne sais pas où ils vont aller chercher, hein, mais qu'ils aillent chercher pour que nous aussi, on puisse être bien soulagés. Sinon, cette baisse-là, pour moi, ce n'est pas trop significatif.
D'accord, ce n'est pas trop significatif. C'est pas, je reviens à toi et à ton niveau, est-ce que c'est significatif?
Alors, vous savez, quand on donne, il faut savoir dire merci. Il faut apprécier le geste d'abord parce que on aurait pu garder le prix, puisqu'il n'y avait pas eu une grande pression pour que le prix soit diminué en ce moment.
Donc, mais on annonçait depuis quand même que sur le plan international, le coût du baril a diminué et que ça doit avoir aussi un coût significatif alors sur les prix des produits pétroliers chez nous ici.
Oui, mais quand vous prenez globalement, le carburant est cher partout. Je le disais, depuis la crise russo-ukrainienne qui a déréglé un peu le marché du pétrole, quand vous prenez le pays européen, le prix ont flambé. Ce n'est pas la petite réduction qui change grand-chose. Donc, partout dans le monde aujourd'hui, le carburant coûte très cher. Et quand vous allez dans un pays comme le Nigeria où les subventions, par exemple, ont été supprimées, le prix du carburant, je crois, a été multiplié pratiquement par 3. Au Niger, il y a par 3. C'est même pas que c'est 100% d'augmentation, c'est 200% d'augmentation. Et vous voyez les conséquences donc au Nigeria. Et c'est vrai que dernièrement, le gouvernement a annoncé que c'est la levée donc de cette subvention-là permet de mobiliser quelques milliards de dollars qui pourraient être investis dans l'éducation, la santé et tout cela. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la vie est très chère au Nigeria parce que le carburant est très cher. Donc maintenant, dans les autres pays, c'est globalement cher. Maintenant, 20 francs, moi, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que c'est suffisant? On peut dire qu'on s'attendait à plus, mais il faut déjà apprécier qu'un geste est fait et exhorter le gouvernement à trouver des mécanismes aussi pour réduire les prix. Je le disais, là, on a annoncé la réduction du prix sur l'huile.
Donc c'est surtout le produit. On vient faire en sorte qu'il y a des réductions à la fin de la journée. On se dit, mais bon, pour finir, on a gagné sur tel prix. Maintenant, encourageons le gouvernement à faire mieux parce que la vie est vraiment chère. C'est très difficile.
Et c'est très difficile.
C'est très difficile pour
d'accord.
les Togolais.
D'accord. Oui, Gabin, justement, pour ce qui concerne le fait que la vie est difficile pour les Togolais, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, depuis un temps, on a commencé par faire ce débat sur la vie chère et on demande, mais pourquoi on attend toujours alors de réduire les prix, surtout des produits pétroliers et aussi des produits de première nécessité?
Oui, bon, ça a pris assez de temps pour que le gouvernement vienne aujourd'hui enlever 20 francs sur le prix de l'essence sans plomb. Il faut dire que c'est insignifiant pour le peuple togolais parce que ça fait pratiquement 3 à 4 ans qu'on a connu rien que des augmentations. Et si au bout de 3 ou bien 4 ans, il y a 400 francs qui se sont ajoutés quand même au prix de l'essence et qu'on en vient à enlever juste 20 francs, ça pose problème. Depuis 2023, aujourd'hui, les recherches sont faciles. Hein. Tout le monde connaît aujourd'hui le prix du baril à l'international. C'est entre 114 et 112 francs, 110 dollars. Donc, c'est tellement facile pour tout le monde d'arriver quand même à avoir maintenant à savoir les taxes, le prix de le transport et tout. On ne sait pas combien ça a coûté à l'État. C'est pourquoi, moi, je me rappelle toujours quand il y avait eu ce problème-là en 2011 et l'ancien ministre Seth Kwaku-Gozan était sorti pour nous parler...
Ah, c'est le ministre du commerce.
Du commerce, ouais. Pour nous parler de la vérité des prix. Je pense que la transparence aurait voulu qu'au moins les associations de défense des consommateurs aient quand même possession de cette structure des prix-là pour qu'on arrive à savoir réellement bon, à combien doit être vendu l'essence ou bien les produits dérivés. C'est aussi simple que ça. Ça permet à l'État, premièrement, d'avoir une certaine transparence et de communiquer moins parce que les papiers sont là, les gens consultent les papiers et ils savent réellement que bon, l'État n'a pas menti, les prix qu'on est en train de payer, ce n'est pas fixé de quelque part ou bien c'est pas tombé est nihilo. Mais le problème aujourd'hui est que on n'a pas la structure des prix et on ne sait pas réellement ce qui se passe sur le marché. Donc, aujourd'hui, quand tu viens chez quelqu'un qui roule sa petite moto et qui va dans une station d'essence, il tend 700 francs pour payer un litre d'essence, bon, 600, on lui dit, bon, 680 francs, bien que tu viens, il dit, bon, je vais prendre 20 francs. D'ailleurs, ces gens-là n'ont pas de monnaie. Et les pièces de 10 francs aujourd'hui, c'est difficile à utiliser hein, dans nos marchés. Donc, à un moment donné, je pense que le gouvernement devait faire mieux. Et même au niveau du prix des gaz, on attendait réellement à ce que ce prix-là diminue. Mais on n'a rien vu. Alors que ce sont des produits qui permettent réellement de mesurer le coût de la vie sur le marché. Aujourd'hui, quand on dit que bon, on a enlevé 20 francs sur le prix de l'essence et on diminue les prix du transport, moi, ça me pose un certain nombre de problèmes.
Comment?
Je pense.
Est-ce que ça doit poser vraiment des problèmes?
Et puis, vous dites, bon, Lomé Palimé, tout le monde le sait, hein, c'est à 3000 francs d'habitude. Mais on dit aujourd'hui, c'est à 2500 francs. Vous enlevez 20 francs sur le prix de l'essence. Et puis, vous dites que, bon, vous réduisez le prix du transport à 500 francs. Vous voyez un peu. Lomé d'Apaon, qui était à 10 000 francs, vous dites que maintenant, c'est à 8500 francs. Ben, sur quelles données se sont basées pour réduire les choses comme ça? Normalement, l'État doit prendre les mesures pour réduire au moins de manière significative pour que ça déteigne sur ceux-là qui font le transport. Parce que c'est le transport qui gouverne tout. Hein. Nous, nous sommes à Lomé. Nos mamans vont au fin fond des villages, dans les fermes, pour nous ramener des produits.
Mais est-ce que, oui, donc, Gabin, est-ce que le gouvernement ne vise pas surtout les citoyens en réduisant le prix, surtout alors des transports?
Ne sert à rien. Oui. Parce que ça ne sert à rien de réduire le prix sur le papier et que sur le terrain, ça ne se constate pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vends dans les gares,
quand tu veux prendre un véhicule pour aller à Palimé, peut-être à Padapé ou bien quelque chose du genre, mais le prix est resté le même. Le chauffeur te dit, ben, va prendre le véhicule du gouvernement parce que moi, je ne réduis pas le prix. On m'en juste. Et toi-même, le passager, quand tu vois ça, tu sens en même temps que, bon, réellement, le chauffeur, il a raison. Parce qu'on ne peut pas enlever juste 20 francs et puis diminuer de 500 francs son prix de transport. Vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut prendre la mesure des choses. Moi, j'ai écouté certains journalistes qui sont allés quand même sur le terrain. Ils ont questionné les chauffeurs. Mais ceux-là ne vont jamais baisser les prix. C'est eux qui conduisent. Ce sont eux qui détiennent quand même cette quintessence-là de pouvoir vous conduire à votre destination. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Vous n'allez pas les convoquer. Maintenant, sur le marché même, on nous parle du prix d'huile. Mais la dernière fois, ils ont réduit le prix du bidon d'huile à 23 000 francs. Mais juste après 24 heures, quand tu vas sur le marché, c'est à 27 000, c'est à 26 500 francs.
Mais est-ce que cela ne pose pas le problème surtout du contrôle des prix?
Ce n'est pas que le contrôle du prix, mais un problème de traitement des questions en amont. Comment ces choses-là se font? Est-ce qu'on arrive à discuter en bonne et due forme avec les importateurs? Et l'État fait-il réellement de concessions à ces importateurs-là? Parce qu'au niveau des taxes, il faut diminuer. Mais si vous ne diminuez pas les taxes, la mairie vient et autres là. On sait combien le loyer coûte dans nos marchés aujourd'hui. C'est les grandes boutiques, c'est au-delà de 200 000 francs. Donc, au même moment, ces gens-là recrutent des employés. Et il y a des employés connexes, c'est-à-dire des portefeuilles autres là. Donc, à un moment donné, il faut prendre tout ça en compte pour pouvoir diminuer les prix de manière sensible. Mais si l'État ne veut pas faire d'efforts et donne juste des injonctions à ces gens-là de diminuer les prix, ben, ils vont accepter devant la ministre ou bien devant le service technique du ministère, mais sur le marché où ils vont pratiquer leur prix. À moins que si vous ne voulez même pas payer, ben, eux, ils ont des marchés à l'extérieur du pays. Ils vont amener les produits à l'extérieur. Les gens vont payer. C'est aussi simple que ça. Donc, à un moment donné, je pense que le ministère doit faire un travail de fond, discuter avec ces importateurs-là et au niveau des chauffeurs même, discuter avec eux parce que les chauffeurs, ben, ce sont eux qui paient réellement beaucoup de taxes. Les taxes communaux, les TVM, tellement de taxes, je ne peux sans compter même les raquettes. Sans compter les raquettes. Donc, à un moment donné, je pense que le gouvernement doit prendre toute la question pour savoir réellement comment il faut faire pour diminuer les D'accord. prix. Il me semble qu'ils ont encore diminué le prix du riz aussi sur le marché. Aujourd'hui, c'est à 20 500 francs le sac de 50 kilos, si je ne me trompe pas. Bon, on va voir sur le marché réellement ce qui se passe.
C'est une bonne nouvelle.
Sinon, moi, aujourd'hui, oui. J'ai encore fait un petit tour. Je suis allé au niveau du nouveau marché de Agoyacier, le nouveau site qui a été doré. Les prix du bidon d'huile n'ont pas changé. C'est à 26 000, 27 000 francs. Au grand marché de
mais quand vous dites que ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé.
Mais entre-temps, c'était à 32 000.
Entre-temps, c'était à 32 000 francs.
Oui.
Mais le gouvernement a dit que c'est à 23 000 francs. Dans les journaux aujourd'hui, j'apprends que bon, ils ont rediscuté avec les importateurs. On dit que c'est à 25 000 francs. Mais quand tu vas sur le marché, moi je viens d'arriver du marché comme ça, hein, c'est à 26 000 et 27 000 francs. Que se passe-t-il réellement?
D'accord. Kofi, quand on suit justement Gabin dans son intervention, on comprend quand même que oui, l'État fait d'efforts, mais il reste toujours à faire.
Pascal, une chose est de parler et une autre chose est aussi d'être écouté. Aujourd'hui, le bon sens nous appelle à encourager le gouvernement dans cette démarche-là de faire des efforts, d'écouter les citoyens. Mais il faut qu'on soit réaliste. Une réduction de 20%, ça ne dit rien.
20 francs, pas
de 20 francs plutôt.
20%, ça va être bien.
20%, ça va être 20 francs. Il y a du sens de 80 francs sur le diesel.
Oui, mais nous,
on ne peut que parler de 20 francs.
Il y a 20 francs habituels.
Pourquoi on ne parle pas du diesel?
Nous parlons de ce que nous utilisons habituellement.
Non, mais il y a des voitures qui prennent du diesel, un plein. 80 francs.
Tout à fait. Oui, oui.
Comme je le disais, une réduction de 20 francs, ce n'est pas vraiment ça. Nous savons que le gouvernement peut faire mieux que ça, et nous l'exhortons à faire mieux que ça. Je vais revenir sur ce que disait l'aîné Germain Poulet tout à l'heure par rapport au Nigeria. Si nous devons faire de la comparaison entre le Nigeria et le Togo sur la base des monnaies que nous utilisons, nous pouvons dire que la vie est chère au Nigeria, mais comparativement au Togo, la vie est beaucoup moins chère. Si nous faisons la comparaison sur la base des monnaies que nous utilisons, les Nigériens ont la vie un peu plus... comment dirais-je, atténuer que nous, ici au Togo. Et moi, je veux faire des propositions au gouvernement. il faut que le gouvernement, dans cet effort-là de réduire les prix pour alléger les conditions de vie du citoyen lambda, il faut qu'il puisse faire l'effort de négocier avec les grands acteurs commerciaux. Et que ce soit des négociations qui se fassent dans le respect de ce que font ces gens-là. Parce que c'est de ça qu'ils vivent. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et leur donner des ordres sans pouvoir négocier avec eux sur la base de ce qu'ils vivent. Donc il faut que des négociations sincères soient faites dans ce domaine-là. Et quand le gouvernement sort enfin pour annoncer des réductions, il faudrait aussi qu'il mette plutôt en place des équipes pour faire en sorte qu'il y ait du respect des mesures qu'ils ont annoncées. C'est très important pour nous.
C'est-à-dire pour ce qui concerne le contrôle et le suivi.
Voilà, le contrôle et le suivi des prix.
Voilà, des prix. Mmh. Ok. Alors, ça va beaucoup nous aider. Nous allons quitter le sujet. On va s'intéresser.
Je voulais quand même dire un petit truc.
Rapidement.
Non, alors, quand j'écoutais dire qu'au Nigeria, c'est mieux qu'ici, non. Les deux pays où la vie est plus chère en Afrique de l'Ouest, c'est au Nigeria et au Ghana. Quand on ne se trompe pas, on a comme l'impression que la vie est chère.
Oui, ça, c'est sûr.
C'est faux. Ça, là où c'est très difficile.
C'est le niveau de vie aussi, hein.
Pardon ?
Et de la monnaie.
Non, mais écoutez.
Et le pouvoir d'achat aussi.
Vous avez tous des Togolais qui travaillent au Ghana. Les artisans, tout ça. Posez-leur la question. Beaucoup ne sont même plus intéressés pour aller faire des chantiers là-bas. Donc quand on le dit comme ça, on a comme. Mais c'est très cher. Et tout ça, c'est le carburant. C'est vrai qu'au Ghana, le président sortant a voulu faire certaines réformes, des investissements qui lui ont coûté cher. Maintenant, ce que je dis, ce que nous vivons, la Côte d'Ivoire l'a vécu aussi. Il y en a. Fixer des prix que les gens ne respectaient pas. Mais il faut que la population aussi aide le gouvernement. Qu'on dénonce certains qui ne respectent pas. C'est vrai que les commerçants diront, nous on a pris un ancien stock, celui qu'on est en train de vendre, donc on ne peut pas baisser les prix. Bon, il y a toujours de l'argumentation, mais il ne faut pas toujours aussi défendre le commerçant, parce que le commerçant, c'est le profit qui le guide. Mmh. Et quand on parlait du transport, avant, quand il y avait les augmentations de prix du carburant, les gens tellement exagérés au niveau des transports. Même le Zémidian, une petite course, le prix qu'il vous donne. Moi, j'ai pris un Zémidian une fois, il me parlait de 2000. J'ai dit, mais pourquoi il ne me demande pas 6000
ça dépend. Ça dépend de là où vous allez aussi.
Oui, non, mais attends. Allez, je vous dis. Maintenant, tout le monde a tendance à se plaindre. Et les commerçants, c'est vraiment leur spécialité. Rien ne marche, tout ça. Alors que, ben. Tu vois, le commerçant. Non, maintenant, il faut que les commerçants aussi comprennent que les populations ont de réelles difficultés pour vivre avec leur salaire. Ça, l'État fait des réductions parfois de taxes, on a vu il y a quelques années sur le téléphone et les ordinateurs. Mais rien n'a baissé. Le commerçant ne baisse pas. Il ne baisse pas. Donc, il faut que les citoyens aident, il faut que les associations de consommateurs qui, ces derniers mois, ont fait un grand travail, accompagne l'État, parce qu'il faut que les commerçants minimisent un peu leurs bénéfices pour que les autres populations puissent en vivre. Maintenant, au niveau des transports, généralement, les prix sont fixés avec les syndicats des transporteurs. Mmh. C'est ceux qui sont dans l'informel qui peuvent s'amuser à ne pas respecter ces prix-là. Mais avec les transporteurs, il y a un cadre assez bien défini où ils travaillent ensemble, ils s'entendent sur le prix, et ils collaborent assez bien, espérons vraiment que tous ces acteurs-là respectent pour que la population togolaise qui souffre, y compris leurs parents, hein, ceux qui sont dans le commerce, dans le transport, donc plus, pour que ça soulage un peu le Togolais.
D'accord. Mais... Ok. Fibin, nous allons quitter le sujet. On s'intéresse maintenant à ce sujet dont vous parlez entre-temps, c'est-à-dire les sénatoriales. Les sénatoriales, c'est le 2 février prochain, où 61 sénateurs seront élus. Alors, déjà, le tiers même d'ailleurs de ce nombre sera nommé par président du Conseil des ministres, puisque nous serons alors dans la Constitution, la 5e République. Alors, il y a le journal Le Tonnet, qui est revenu sur le sujet, qui dit « Le Sénat, nouvelle page institutionnelle de la 5e République ». Et on a vu également la réaction de l'opposition, de la classe de l'opposition, sur cette question alors du Sénat. Et on a écouté aussi Maître Tassouna Traoré, qui proposait plutôt que le un tiers qui sera nommé par le président alors du Conseil des ministres, et que ce un tiers proviennent alors plutôt de la classe alors de l'opposition. Et comment vous avez trouvé la proposition de Maître Tassouna?
Bon, moi je peux dire qu'elle peut être intéressante, cette proposition. Vous savez, c'est la mise en place du Sénat qui va déclencher un certain nombre de choses. Non, tout d'abord même, c'est la prestation ou l'entrée en fonction du président du Conseil qui va déclencher un certain nombre de choses. Parce que lorsque le président du Conseil va prêter sa main, va entrer en fonction, c'est là où il se permettra, où il aura toutes les prérogatives de nommer le un tiers. Donc une fois que le Sénat sera mis en place, le Sénat et l'Assemblée nationale, je le répète toujours parce que c'est ce que nous faisons avec notre fonds de recherche par rapport au projet qu'on développe en sortant les visuels toutes les semaines. Cette semaine, nous avons sorti un visuel sur la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire l'article 69 de la Constitution. Alors, une fois que le Sénat sera mis en place, donc le Sénat et l'Assemblée nationale vont se réunir en congrès pour élire le prochain président de la République. Voilà, et puis le président du Conseil va intervenir dans la plupart, dans la mise en place de plusieurs institutions. Alors, le Sénat et la présidence de la République, moi, ça me tient beaucoup à cœur. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà l'Assemblée nationale qui est majoritairement unie. 108 sur 113, c'est beaucoup, vous imaginez. Bien sûr, ce sont les Togolais qui ont voté pour unir. Au niveau du Sénat, si on arrive encore à avoir... Parce que quand vous voyez, les deux tiers vont être élus par les collectivités territoriales, c'est-à-dire les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Donc ça veut dire qu'unir, prendre tout. Le terrain leur favorable, unir va prendre tout. Parce que les conseillers régionaux que nous avons aujourd'hui, c'est majoritairement unis. Donc ils ne vont pas se permettre d'élire des opposants pour siéger au Sénat. Alors... on sait que les deux tiers seront majoritairement unis. Alors, pour équilibrer un peu les choses, donc on sait que le président de la République, lui, c'est un homme de vertu. Donc, il voudrait que tous les Togolais participent à la gestion du pays. Alors, s'il se permet de nommer 15 peut-être opposants au Sénat, je pense que ça va essayer d'équilibrer un peu les choses. Quand on parle de la démocratie aussi, parce qu'on sait qu'il y a l'opposition, il y a le parti au pouvoir, donc ça va essayer de nous donner une certaine visibilité sur le plan international. Bien sûr, démocratiquement, le président de la République, il n'est pas obligé, au fait. Il n'est pas obligé de nommer les opposants comme sénateurs. Et puis se dire, moi, j'ai le pouvoir, c'est moi qui suis au pouvoir, c'est mon parti qui a gagné les élections, je peux me permettre d'élire encore ou de nommer encore 20 sénateurs qui sont de mon parti. Mais ce n'est pas trop joli. Et puis l'autre chose que moi je souhaiterais aussi, c'est que vous savez, lorsqu'on parlait de la Constitution au début de l'année, en avril comme cela, moi j'ai écouté un leader de UNI qui disait que en 2025, les Togolais vont avoir l'alternance. C'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons le président de la République qui est de unir. Bon, son papa a fait 38 ans et lui, il est en train de faire 20 ans. Donc, les Togolais sont un peu fatigués par rapport à cela. Alors, en 2025, on aura un nouveau président de la République. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, le président du Conseil, il est uni, c'est Fonia Singbe. Non, lui, il sera déjà président du Conseil à la présidence de la République. Qui sera à la présidence de la République? Quand on prend le Sénat et l'Assemblée nationale, les deux peuvent décider d'élire encore indirectement un gars ou peut-être une personnalité de UNI. Donc, à la tête du Togo, c'est-à-dire à la présidence de la République, on aura un membre de UNI. À la tête de la présidence du Conseil, on aura encore un membre de UNI. Moi, je vois que ça ne sera pas trop beau. Alors, ce que moi, je souhaiterais, qu'on ait peut-être une personnalité neutre, peut-être qu'il n'a jamais fait le pouvoir, ou qu'il a une fois fait le pouvoir, mais qu'il n'est pas de UNI. Et là, les Togolais peut-être pourront parler de l'alternance. C'est ce que moi je souhaiterais.
C'est votre souhait. C'est votre souhait. Oui, c'est votre souhait. Gabin, je ne sais pas si vous avez aussi le même souhait.
Non. Je ne peux pas trop espérer de ce système-là parce que vous savez, la politique, c'est la politique. Quand tu gagnes, tu gouvernes. Et puis après, on va te juger par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ton bilan. Et aujourd'hui, avec le Sénat, c'est vrai, l'article 2 du décret qui était sorti, permet au président du Conseil de nommer un tiers de ses membres, à savoir 20 personnes. Ça veut dire que, il aura la possibilité, c'est son pouvoir discrétionnaire, de nommer qui il veut. Il peut même nommer toi, Pascal. Je ne sais pas si tu as 35 ans révolu. 35 ans révolu. Et il peut nommer toi, il peut nommer qui il veut, pourvu que la personne remplisse les conditions et que la personne n'occupe pas des fonctions où il y aura quand même de l'imbroglio. Maintenant, là, moi, la question que je me pose est de savoir, est-ce que Maître Tchassona Traoré, il a envie de participer aux élections sénatoriales ou pas? Si c'est le cas, qu'il participe au lieu de demander au chef de l'État de le nommer, parce que c'est lui aussi, il a un parti politique, le MCD. Donc, c'est un chef de parti politique, il ne peut pas demander à un autre chef de parti politique de le nommer, puisque M. Fosso Zinania Singbe, c'est un chef de parti politique, il est d'UNI. Donc, lui, il ne va pas ramer à contre-courant, parce que, il est magnanime, il aime tellement le Togolais qu'il n'a pas de compétences dans son parti politique, dans son propre camp pour nommer comme sénateur. À unir, il y a tellement de personnes que c'est pas 20 personnes qui vont manquer hein, à l'appel. Donc, il ne faut pas créer des frustrations dans son propre camp. Maintenant, si hein, par des contorsions, ou bien par peut-être par amitié ou bien fraternité, le chef de l'État lui fait appel, bon, il ira certainement que lui va accepter parce que c'est sa proposition. Mais moi, j'ai l'impression que beaucoup de politiciens de nos jours font des propositions juste pour le faire.
Mais, non, Gabin, sur ce point, est-ce que ce n'est pas parce que on veut aller au-delà de la politique politicienne et pour apporter ensemble le développement que nous voudrons vraiment implémenter à notre pays?
Ben, le développement qu'on veut implémenter à notre pays, c'est pour ça qu'on crée des partis politiques. Quand il a créé son parti politique, il avait quelle idéologie pour son parti politique? Son idéologie ne s'est pas basée sur l'idéologie d'unir. Vous voyez un peu, la preuve, le chef de l'État lui-même, il était venu avec le RPT, mais par après, ils ont dissous le RPT pour créer unir. Ça veut dire que, bon, les objectifs sont différents. Donc, quand tu es chef de parti politique, il faut lutter sur le terrain pour venir au pouvoir. Il ne faut pas compter sur celui-là qui est au pouvoir actuellement pour co-gérer avec lui. C'est une sorte de co-gestion que M. Tchassonet est en train de proposer, comme l'a fait M. Daté du CAR. Donc, moi, entre les deux, je ne vois pas de différence. Donc, moi, vous savez, dans un pays, nous avons quand même besoin d'une opposition assez forte. Et je comprends la position de ceux-là qui ne veulent pas participer aux élections sénatoriales parce qu'ils sont dans leur idéologie. Et bon, l'ANC, on sait depuis que l'ANC ne va pas participer quand même à ces élections-là, la DMP ou bien le DMP.
Oh non, la DMP.
La DMP vient de s'ajouter. Maintenant,
puisque la dynamique a annoncé même d'ailleurs dans cette semaine voilà, qu'elle ne va pas s'associer aux sénatoriales.
Mais c'est un peu bizarre puisque eux, ils sont en train de siéger sous la 5e République quand même. On a critiqué des gens ici qui ont refusé d'aller à l'Assemblée nationale parce que bon, ils ne veulent pas siéger sous la 5e République, mais eux, ils siègent sous la 5e République, mais refusent de participer à l'installation de la deuxième chambre qui va quand même permettre l'implémentation de la 5e République. Donc, à leur niveau, c'est une contorsion qu'ils sont en train de faire. Je ne vais pas aborder leur cas, mais pour Maître Tchassona Traoré, que je connais depuis fort longtemps, c'est quand même un mentor, hein, il faut le dire. Mais politiquement, aujourd'hui, je ne vois pas le poids pour que le chef de l'État nomme un membre du MCD ou bien du CAR, parce que réellement, sur le terrain aujourd'hui, ils n'ont pas véritablement de poids. La preuve, pour piocher quand même quelqu'un de l'opposition pour aller au gouvernement, on n'a pas pioché quelqu'un du MCD ou bien du CAR ou bien d'un autre parti politique.
D'accord.
On a pioché quelqu'un de l'ANC, un parti assez représentatif de l'opposition.
D'accord. Alors, j'aimerais... Est-ce que dans cette proposition de Maître Tchassona, vous voyez peut-être un aveu d'échec?
Oui, l'opposition, c'est pas un aveu d'échec, c'est un réalisme politique. Hein. Vous savez que, comme l'a dit Gabin tout à l'heure, l'opposition ne pèse plus au Togo. Et l'opposition que nous avons est désormais incapable de faire l'alternance. Donc, là, on est en démocratie, il n'y aura pas d'alternance avec l'opposition que nous avons, parce qu'elle s'affaiblit de plus en plus. Et aux dernières élections, on a compris que le peuple, s'il n'est pas majoritairement uni, il a envie qu'on renouvelle toute la classe de l'opposition parce qu'il n'a pas vraiment donné du crédit à ses candidats. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer Maître Tchassona à l'occasion de l'atelier du H-Kron sur les réparations mémorielles.
Tout à fait.
Et je lui ai posé la question, on en a discuté. Il m'a dit clairement qu'il n'allait pas à cette élection parce que quand on prend l'électorat, c'est très difficile pour l'opposition de gagner. Et il m'a expliqué un certain nombre de choses. J'ai dit, mais pourquoi il ne va pas développer cet argumentaire-là devant les électeurs, qui sont les conseillers, les municipaux et
les conseillers régionaux.
Régionaux, voilà. Mais c'est du réalisme. La DMP qui est à l'Assemblée, qui ne veut pas aller, c'est qu'elle n'a aucune chance de gagner. Parce que majoritairement, les électeurs sont proches d'unir. Donc, ce qu'il dit, à mon sens, c'est une bonne proposition. Et on espère que le chef de l'État pourra quand même prêter une oreille attentive à cette proposition, parce que on sent que le chef de l'État a envie que l'opposition joue un rôle dans ce pays. Et c'est d'ailleurs unir qui a voté le statut de l'opposition à l'époque avec le chef de file de l'opposition, qui malheureusement Le premier chef de file n'a pas su jouer son rôle. Le deuxième est un peu fatigué. Il se repose au Ghana. Et depuis, il n'y a plus rien. De cette loi-là sur le statut de l'opposition, il n'y a plus rien. En principe, on donnait le poids au chef de file de jouer un rôle. Maintenant, on a un nouveau chef de file qui, avec deux députés, est chef de file de l'opposition. Espérons vraiment que cette institution fonctionne hein, cette fois-ci et que le chef de l'État prenne en compte cette proposition qui vient du MCD pour que le gagnant ne prenne pas tout, parce qu'il peut tout prendre, mais qu'il se dise... On a besoin d'un débat contradictoire par moment. Il faut qu'au Sénat aussi, que le débat aussi soit contradictoire et qu'il faut quelques D'accord. opposants. Et donc, et c'est sur le quota, parce que si on veut élire, l'opposition n'a presque aucune chance d'avoir des sénateurs. Maintenant, dans le quota réservé au chef de l'État, il peut bien nommer ces personnalités-là. Et je crois qu'il y a quand même un cadre de collaboration qui est le cadre permanent de concertation, où il y a quand même des échanges entre politiques. Et ça sera une très bonne chose que quelques opposants soient nommés par le chef de l'État, pas pour aller faire le travail du chef de l'État, mais pour aller continuer à faire le travail d'opposant et de faire des propositions, de créer le débat contradictoire.
Mais vous voyez quand même des opposants qui seront nommés pour, par le chef de l'État et qui feront toujours le travail alors de l'opposition.
Oui, ils iront, mais on a vu le gouvernement d'union ici avec des opposants qui ont collaboré pour organiser des élections ici. Mais Trabouibo à l'époque, personne a fait un travail très remarquable. Avant lui, après lui, il y a eu l'accord IFC-RPT. Donc, ce n'est pas des ennemis. Donc, c'est ce qu'on doit dépasser, d'ailleurs. Je crois que on est resté un peu dans ce vieux schéma qui a beaucoup compliqué la vie au Togo.
D'accord.
Maintenant, il faut aller au pragmatisme, il faut être réaliste. Et on ne viendra pas dire que c'est grâce aux présidents qui sont là, mais c'est la loi qui donne le pouvoir au président de nommer le tiers des sénateurs. Donc, à partir du moment dans les deux tiers, il y a peu de chances que des opposants aient choix. Je crois que le président de la République, s'il est sensible à la doléance de l'opposition, parce que ce que M. Tchassouna a dit, c'est ce que les autres opposants aussi pensent. Hein. Lui, là, il a le courage simplement de le dire. Oh,
hein, regardez, tout le monde va être nommé.
Ils savent qu'ils ne pourront pas passer.
Kofi, est-ce que, justement, par rapport à cette proposition de Maître Tchassouna, finalement, est-ce qu'on ne dira pas que c'est une proposition pertinente quand on sait que, quand on parle du régime parlementaire, alors il faut justement de la contradiction, des débats contradictoires, il faut que l'opposition aussi ait un poids, et que, déjà, dans ces institutions hein, qui composent surtout l'Assemblée nationale, je veux bien parler alors de l'Assemblée nationale, enfin, du Sénat et aussi du Parlement.
Pascal, moi, je vais dire deux choses. La première, je vais revenir à ce qu'a dit l'évangéliste de la 5e République tout à l'heure par rapport au fait que les Togolais connaissent.
C'est qui
l'évangéliste Firmin Tekou Agbo. À ce qu'il a dit tout à l'heure concernant le fait que les Togolais connaîtraient l'alternance en 2025. Moi, j'ai toujours dit ici...
Il a rapporté plutôt les propos de quelqu'un d'autre.
D'accord. Bon, voilà. Et j'ai toujours dit ici, je vais répéter ce que j'ai toujours dit, cette histoire de la 5e République est la pire escroquerie politique de l'histoire de notre pays.
Et pourquoi vous dites ça?
Je le dis parce qu'on nous vend la même chose sous une autre forme. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse ça. Quel est le poids qu'aura le prochain président de la République dans ce pays? Si on s'en tient à ce qu'il dit... Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui que, comparativement au poids qu'a le président de la République aujourd'hui, on peut avoir la même chose dans l'image du prochain président de la République? Moi, je dirais non. Peut-être que je ne comprends pas bien les textes, mais ce n'est pas la même chose. On nous vend la même chose qu'on a aujourd'hui, mais sous une autre forme. Et on nous dit que c'est de la nouveauté, c'est de l'alternance. Je suis désolé. Il ne faut pas qu'on nous fasse ça. Maintenant, je reviens à la proposition de Maître Tchassouna Traoré. C'est une proposition que certaines personnes pourraient trouver valable, mais moi, ça me scandalise. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est de la faiblesse politique.
Aveu d'échec.
Voilà, de la faiblesse politique, de la résignation, de la paresse politique. Pour un chef de parti politique, de demander à un autre chef de parti politique qui est au pouvoir de quémander des postes dans un Sénat.
Mais est-ce que ce n'est pas être réaliste, comme le disait Général?
Non, ensuite, c'est de la faiblesse politique. Et ça me scandalise, ça me désole beaucoup, parce que les Togolais qui aspirent véritablement au changement devront attendre encore longtemps, très longtemps. Parce que l'opposition togolaise aujourd'hui n'a pas de poids. Elle n'a pas, comment je peux le dire, elle n'est pas dans cette position de force-là de pouvoir dire quoi que ce soit au régime et de s'attendre à ce que le régime puisse respecter ce qu'il dit. Je pense qu'ils doivent, à un moment donné, se poser les questions réelles. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que le peuple attend de nous? Et de se mettre réellement au travail pour nous donner ce qu'on veut. Ça, là, ce n'est pas ça.
D'accord. Moi, je voudrais ajouter. Oui. Moi, je ne pense pas que ce soit un aveu d'échec. C'est du réalisme. Ils savent qu'il y aura tout. Mais quelle honte de dire donnez-nous aussi un peu. Nous aussi, on veut participer à la gestion du pays.
Mais vous, quand même,
on n'est pas tout plein. Nous sommes en politique, on s'en fout.
Non.
Donc, donnez-nous aussi un peu. Mais dites, Vilena Niachan, c'est ça, en fait, le problème. C'est tout, vous prenez tout, c'est pas bon, c'est pas joli, et puis c'est pas intéressant. Et puis vous avez dit quelque chose d'important. Sur le régime parlementaire, l'opposition a un rôle fondamental. Vous savez, je l'ai toujours répété ici, l'article 2 de la nouvelle constitution dit « Le mode de fonctionnement du Togo, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » Donc, dans le régime parlementaire, l'opposition a un rôle important. Le statut de chef de file de l'opposition a c'est un rôle véritablement important. Le vis-à-vis direct du président du conseil, c'est le chef de file de l'opposition. Donc, vous savez, ceux qui ont inventé le régime parlementaire en Grande-Bretagne, le Premier ministre, il a, exemple, 1000 francs comme salaire. Son opposant direct, chef de file d'opposition, a 999 francs. Ouais. Donc, c'est juste un franc de symbole. Ça veut dire qu'en réalité, donc, dans le nouveau régime parlementaire, le président de la République, son salaire, là, avec celui de qui est l'actuel chef de file d'opposition, c'est un même donc, ils ont presque le même salaire. Ils ont presque le même salaire. Pourquoi? Pourquoi on se permet ça? Parce que ça permet au chef de file d'opposition de construire une opposition solide, de construire un chef de cabinet pour que régulièrement il puisse aller discuter avec le président du conseil. Donc c'est ce que moi je souhaiterais. Je souhaiterais que le pouvoir fasse un effort, qu'il fasse un effort pour donner un certain poids à l'opposition dans ce régime parlementaire. Même si c'est avec 2 députés, même si c'est avec 3 députés. Dans ce cas, l'Assemblée nationale, oui, c'est déjà foutu. Mais au niveau du Sénat, qu'on permette d'avoir au moins des opposants là. Et là, le débat sera véritablement intéressant. Donc ne les critiquez pas, ils n'ont rien. Vous voulez qu'on tue définitivement l'opposition? Au moins avec ça, si on arrive à avoir 15 opposants au Sénat, ça peut permettre d'avoir un peu de se relever économiquement.
Même 5, c'est bon.
Même 5, c'est bon. Même 5, c'est bon. Ça peut permettre de se relever économiquement.
Oui, mais Pascal, quel respect voudriez-vous qu'un régime donne à des opposants dont la légitimité ne vient pas du peuple, mais de la magnanimité de ce même pouvoir-là? Quel poids!
C'est pas la magnanimité. Enfin, ce que je disais tout à l'heure,
oui, jamais.
Le gouvernement a voté le statut de l'opposition sans même l'opposition. Elle devait en profiter. Et on a vu la première fois que Jean-Pierre Fabre, à l'époque, a rencontré le chef de l'État. Il disait quoi? Mais c'est prévu dans les tests qu'on se rencontre régulièrement. Il l'a dit. Mm-hmm. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite comme l'espéraient les Togolais. Donc, c'est quand même un texte important. Maintenant, c'est la loi qui donne au président la force de désigner des sénateurs.
Qu'il veut.
Donc, on peut dire sur la base de cette loi que parmi les sénateurs qu'il choisira, qui est certain de l'opposition, c'est pas aller quémander. L'opposition peut bien se taire. Maintenant, si elle se tait, le président nomme, elle dira quoi? Oui, on vient pas sur la liste président.
Mais est-ce qu'elle n'aurait pas pu faire ça?
Si elle n'aurait pas demandé, le président nomme dans l'opposition, elle n'accepte pas. Mais, voyez, donc...
Moi, je voudrais juste relever quelque chose. Quand on est président du conseil, par exemple, c'est-à-dire on se met au-dessus de la mêlée, on n'est pas de tout le monde, au fait. C'est comme on est pour le parti au pouvoir uni et pour l'opposition. Donc, si on a des ressources au niveau de l'opposition, on les prend. Si on a des ressources au niveau du parti au pouvoir, on les prend. C'est comme le président actuel ou le prochain président du conseil veut nommer peut-être quelqu'un à un poste international. S'il trouve que cette compétence est au niveau de l'opposition, pourquoi il ne va pas aller chercher? Donc, pour arrêter, ce n'est pas un aveu d'échec. Laissez-les tranquilles.
D'accord. On va quitter le sujet. Oui, Gabin.
J'ai bien peur qu'on ne sorte pas de l'auberge parce que on est toujours dans ce clivage partisan là, ou bien je veux défendre mon parti politique. La Constitution l'a bien dit, et la Constitution de la 5e République aussi l'a dit, tout mandat impératif est nul. Mais aujourd'hui, quand tu vois quand même les parlementaires, tu te poses la question de savoir est-ce que ceux-là, ils vont quand même pour défendre la population ou bien pour défendre un parti politique. Donc, pour moi, je pense, le chef de l'État, j'aurais préféré l'opposition, quand on a une opposition assez sérieuse, quand le camp d'en face gagne, laissez-les gouverner.
Exactement.
Ne demandez rien. Laissez-les gouverner et puis battez-vous sur le terrain pour que prochainement vous puissiez renverser la vapeur.
Non, moi, je pense
que. On va arriver. Sinon, on va jamais. On quitte le sujet. On reviendra là-dessus. Il n'y a pas de souci. Puisque c'est encore. Le 2 février, c'est encore devant nous. On fera le débat sur cette question. Alors, on va s'intéresser maintenant à cette question de départ des forces armées françaises au niveau alors du Tchad. Et c'est vrai, l'AES avait demandé le départ des forces françaises. Et Gerbin, finalement, c'est le Tchad qui rentre également dans le jeu. Et rapidement, on est en train alors de chasser les forces françaises alors au niveau du Tchad. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourra parler quand même de divorce entre Emmanuel Macron et le maréchal?
Non, est-ce qu'il y a un divorce? Non, il n'y a pas de divorce. C'est-à-dire que les pays africains essaient de revoir l'état de leur coopération avec la France. Là où c'est bon, ils gardent. Là où c'est pas bon, ils rejettent. Ben alors, quand vous avez des militaires français sur votre territoire qui sont incapables de vous aider, de vous donner des renseignements, de vous appuyer, et quand on tue des dizaines de soldats sur le front ou quand le pays est attaqué, alors que ces bases-là sont là et qu'elles n'aident pas, on se demande, mais à quoi ils nous servent? S'ils sont là uniquement pour leurs seuls intérêts, ben qu'ils aillent se loger donc ailleurs, et c'est ce que le Tchad a fait. Donc il y a eu un dernier événement où il y a eu une attaque assez mortelle sur laquelle la France n'a pas appuyé le Tchad, et donc il veut être libre et voir si éventuellement il peut nouer d'autres partenariats. Donc c'est vraiment pas chasser la France. Parce que la France, elle est là, hein, sur le plan culturel, elle est là sur le plan économique, elle est là en permanence en Afrique, hein, elle n'a pas de problème. C'est une certaine France politique, militaire, qui a des problèmes parce que les accords n'arrangent plus nos pays et il y a une autre situation, la France n'est pas au rendez-vous. Donc, on peut trouver d'autres solutions. Et vous avez vu que le Sénégal aussi emboîte le pas.
C'est vrai
que tout n'est pas encore décidé, mais on évolue vers la même situation. Et puis, c'est une situation que les populations comprennent assez bien, parce que nous-mêmes, on a nos militaires. On ne comprend pas pourquoi il y a d'autres militaires qui se baladent dans nos pays et qui ne nous apportent rien sur le plan sécuritaire. Donc, il vaut mieux qu'ils aillent s'installer chez eux ou ailleurs, où ils peuvent aider, ou bien s'ils restent chez nous, comme l'ont fait certains pays, qu'ils nous paient pour rester, parce qu'on sait qu'ils sont là pour défendre des intérêts économiques et tout ça, pour surveiller les bateaux, pour un certain nombre de choses. Donc, ben, qu'ils louent nos espaces, qu'ils nous paient normalement, comme ils font du business avec ça, et que ça s'avance. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème avec la France. C'est vrai qu'on essaie de rapprocher ça à la situation au Burkina et au Niger
et au Mali.
Au Mali. Mais c'est un peu deux choses différentes. Je crois que la France aurait dû comprendre que ce n'est pas ce que les Africains attendent aujourd'hui d'elle, de rester stationnés à ne rien faire. C'est que les Africains sont en guerre. Et s'il y a un partenaire militaire, il faut qu'il s'associe à cette guerre-là pour aider les pays à se protéger.
D'accord.
Donc c'est tout à fait normal que le Tchad demande le départ de la France, des militaires français surtout, et trouve d'autres solutions sur le plan sécurité.
D'accord. Fébin, est-ce que vous arrivez à comprendre cette décision du Tchad?
Non, c'est parce que Macron n'inspire plus le respect. Mais avec Macron, la France n'inspire plus le respect. Plus personne ne respecte Macron. Macron ne respecte personne. Personne ne le respecte. Les Africains le considèrent comme un petit. C'est ça, en fait. Vous ne pourrez jamais se comporter comme ça face à un certain Chirac ou un Mitterrand. Jamais. Donc, les Africains ont fait...
Mais c'est cette même France qui a supporté quand même l'arrivée au pouvoir du fils d'Ebi.
Oui. C'est parce qu'en réalité, Macron, il s'est fragilisé avec ce qui se passe même à l'interne. Et aussi, on voit comment il s'est fragilisé face aux Sahéliens. Donc, le jeune d'Ebi se dit, mais j'ai aujourd'hui toute la légitimité de mon peuple, je suis élu, donc pourquoi garder encore les militaires? En fait, mais au-delà de tout ça, moi, ça ne m'émeut pas. Parce qu'en réalité, même si ça dérange un peu la France, nous continuons d'enrichir la France. C'est-à-dire que ce que j'aimais à dire tout à l'heure, économiquement, nous enrichissons fortement la France. Regardez les vins français que nous avons, les pommes que nous avons, les raisins que nous avons, aller dans le supermarché. Qui ne va pas au supermarché? La plupart des produits, les champagnes que nous avons, c'est des milliards qui vont en France tout le temps, qui partent de l'Afrique. Moi, je veux juste vous donner un exemple. Vous savez, on prend tout, presque 50 pays en Afrique qui ont des écoles, qui ont le système français. Au Togo, vous en avez au moins 5, par exemple, au Tchad, tout ça. Maintenant, chaque année, chaque État envoie, non, je ne dirais pas chaque État, c'est-à-dire de chaque pays, partent au moins 500 étudiants. Je donne l'exemple du Tchad, par exemple. Il y a 500 étudiants, 500 jeunes bacheliers qui ont fait le système français dans ce pays, qui vont en France. Regardez, et chaque enfant doit avoir au moins 5 millions sur son compte. 5 millions fois 500, c'est combien? 2 milliards 500 millions. Maintenant, les enfants voyagent pendant la grande saison, c'est-à-dire le billet d'avion est entre 800 millions et 1 million. Ça fait environ 500 millions. 500 millions ajoutés à 2 milliards 500 millions, c'est combien? 3 milliards. Ça veut dire régulièrement.
J'ai oublié le coût du visa.
Le coût du visa. Regardez, ça veut dire qu'en réalité, du Tchad, plus de 3 milliards qui vont en France. J'ai un ami qui est allé en France, qui va en France régulièrement. Il dit, quand tu vas en France, maintenant, tu vois que la France investit beaucoup dans les logements. Parce qu'en réalité, il y a une vague d'étudiants qui viennent de l'Afrique. Des milliards qui sortent de l'Afrique, qui viennent. Est-ce que c'est la France qui nous oblige à le faire? C'est nous-mêmes. En fait, on dit la France, alors que nous-mêmes, nous continuons d'enrichir la France. D'accord. Et la France investit beaucoup dans son économie. Au même moment, nous, on s'appauvrit.
D'accord. Et Gabin, quelle analyse vous faites alors sur le départ?
Le fils de Bi peut faire ce coup-là à tout le monde, sauf à moi. Parce que... ça fait cet accord-là date depuis 1975, oui. Cet accord militaire entre la France et le Tchad. L'accord a été révisé en 2019 avant la mort de son papa en 2021. Son papa tenait quand même pratiquement le même langage avant sa mort, hein, notamment avec l'interview avec Alain Foucault, où il parlait quand même des relations de la France-Afrique et autres. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de savoir quel est le régime là qui a permis au clan Déby de rester au pouvoir. C'est la France qui a permis à ce clan-là. Et les relations militaires avec la France, entre la France et le Tchad, n'ont pas été que catastrophiques. À un moment donné, il faut se dire la vérité. Parce que face aux velléités expansionnistes de la Libye, c'était quand même la France qui avait bloqué cela avec avec l'opération Matan. L'opération PRB aussi avait fait aussi de ses preuves. Maintenant, le problème avec Déby, c'est que c'est un problème personnel avec la France. En juillet dernier, il y a une procédure judiciaire qui était ouverte contre lui avec les histoires de dépenses de plus de 900 000 euros dans un magasin d'habits. Vous voyez un peu? Du coup, il ne se sent plus véritablement protégé par la France. Ensuite, il y a le désagrégement du G5 Sahel. Donc, il voit que bon, la France n'est plus véritablement assez puissante pour pouvoir mettre la main dessus. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se rapprocher. Depuis 2022, hein, il se rapproche de la Russie, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie. Donc, ce sont les nouvelles puissances-là qui viennent en Afrique. Il s'est rapproché de ces puissances-là pour que la France le courtise de nouveau, pour qu'il puisse faire de nouvelles propositions pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il sait très bien que Macron n'a plus assez de pouvoir, il va partir très bientôt. Maintenant, celui-là qui va venir au pouvoir, il va le courtiser. Et lui, il sait très bien que son fauteuil présidentiel, il le doit à la France. Donc, il n'a pas intérêt à se mettre en conflit avec la France. Il chasse les militaires, mais les accords économiques et autres, ils sont là. La France profite toujours. La France exploite toujours les minerais au Tchad. Donc, ce coup-là, qui ne nous le fasse pas?
Vous n'allez pas l'avaler.
On voit très
d'accord,
loin.
D'accord. Oui, monsieur Kofi.
Moi, je dirais tout simplement qu'il n'y a rien à signaler au niveau du Tchad. Parce que...
c'est un non-événement.
Oui, c'est un non-événement. Parce que quand vous voyez un jeune militaire de la trentaine qui aujourd'hui s'offre sans avoir gagné une guerre quelconque, sauf le titre de maréchal, ça doit vous faire réfléchir beaucoup.
Est-ce que son papa a pris le temps nécessaire, même d'ailleurs, d'avoir... Hein?
Alors, est-ce que Idriss Déby... comment il s'appelle déjà? Mahamat Idriss Déby, ce qu'il a fait déjà avec la demande au départ des forces françaises, est-ce qu'il le fait pour lui ou bien pour le peuple tchadien? Moi, je dis qu'il le fait pour pérenniser son pouvoir. Quelle que soit la manière dont il veut
que cela paraisse aux yeux du monde entier, aux yeux des Tchadiens, il le fait pour lui et non pour le peuple tchadien. C'est ce qui est inquiétant.
D'accord, c'est ce qui est inquiétant. Ok, merci cher confrère pour le débat, puisque nous allons en arrêter là. Et pour ce qui concerne le débat, nous allons donner la parole aussi à nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer en ligne, et c'est sur le 90 86 35 35 ou le 91 36 315, et également sur notre numéro WhatsApp. On peut nous écrire sur le 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5.
Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse, et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir, et nous écrire aussi au 90 45 78 57. Notre premier auditeur se signale déjà. Allô?
Allô, bonjour Canal FM.
Bonjour Nestor, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
D'accord, allez-y.
Oui, sur la réduction du prix de produits pétroliers, totalement en phase avec les journalistes. La réduction est insignifiante, mais reste à saluer. Maintenant, sur le plan politique, on crie que la population a voté majoritairement le parti au pouvoir, que l'opposition est faible, il y a une contorsion au niveau de cette opposition, mais il y a un certain nombre de questions à poser. Est-ce que l'armée est partisane? Est-ce que la justice est aux ordres? Est-ce que les institutions de régulation sont présidées par des membres du parti? Est-ce que le parti est rodé à la fraude? Maintenant, sur le départ des troupes françaises du Tchad, Jacques Bégoudé, sur France 4 dans l'émission, en tête à tête, a parlé du principe de réciprocité. Est-ce que le Tchad a une base militaire en France? Non. Donc, pourquoi le Tchad devrait abriter une base militaire de la France? Merci, Canal FM.
Merci à vous, Nestor, pour votre intervention. 90 86 35 35, 91 36 63 75. Allô?
Allô? Allô, François?
Oui, bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, je vais tout simplement bien.
D'accord. Allez-y.
Je salue tous les autres confrères. Bon, il faut dire que depuis que votre collègue Eric Donson m'avait donné ultimatum sur votre immédiat, c'est aujourd'hui que j'ai pu avoir la chance de rentrer en ligne. Mais il faut lui dire que je ne suis pas son enfant.
Vas-y.
Il faut lui dire que je ne suis pas son enfant.
Oui, Basile.
Entre lui et moi, si quelqu'un doit donner ultimatum, c'est moi qui dois lui donner.
Allô, Basile. Allô, Basile.
Il n'a qu'à le savoir.
Basile.
Maintenant, j'interviens sur la réduction des prix. Et ça, il faut qu'ils le sachent. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Et la réduction, quand moi j'ai fait des calculs, sur 3 ans, le gouvernement nous a fait une augmentation de 275 francs. Sur 3 ans, du 11 juin 2021 à ce jour. Mais quand il s'est agi de nous diminuer pour nous faciliter un peu la tâche, vu surtout que nous sommes à la veille des fêtes, et bien il nous balance 20 francs. Je ne sais pas ce qu'on fait avec 20 francs aujourd'hui. Bon, mon frère Germain dit qu'il y a 80 francs de diesel. Qui met diesel dans sa moto? C'est aujourd'hui, c'est les gens de moto qui achètent l'essence. Qui met diesel dans sa moto? Il n'y en a pas. Donc, si vous êtes dit que vous allez venir intervenir, faire les éloges au gouvernement.
Alors, bah, Basile, merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM, je suis Roland Davipozo, parlant de la baisse des prix du carburant. Un ami m'a dit que le Togolais est composé de 80% d'analphabètes, et c'est vrai, le gouvernement sait avant de faire les choses. Ils savent que quand ils lancent leur communiqué dans la population, nous allons s'en donner à cœur joie. D'autres vont décortiquer et la vie continue, sinon envoyer des choses pareilles aux intellectuels. ils vont réfléchir par deux fois, diminuer un prix sur papier. On en a tellement vu et vécu sur la terre de nos aïeux. Les gens ne respecteront jamais un gouvernement illégitime. Merci. Alors, c'est un auditeur, pardon, qui n'a pas signé sa réaction. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va.
C'est monsieur Bauto. Oui.
Oui. J'ai l'impression que chaque fois que nous intervenons et on critique M. Fumet, il ne change pas. Alors qu'on dit seulement que le pays s'est fait grandir. À chaque fois, lui, il a l'habitude de comparer l'Europe et l'Afrique. Est-ce qu'il a dit
allô, M. Bauto?
Oui,
monsieur Bauto.
Oui.
En fait, vous savez, le principe de l'émission, c'est quoi? C'est qu'on vous donne, on vous donne la parole pour que vous vous exprimiez aussi sur des sujets que nous avons débattus ici.
Mais c'est compris. Mais ici, chez nous, au Togo, ici,
oui.
Là-bas, en Europe, les gars respectent les lois qui eux-mêmes sont dorées. C'est ça la différence, quoi. Il a quand même. Je vais montrer un pays au monde qui pratique le régime parlementaire et le président nomme les sénateurs au monde. Je me donne un pays. Et je viens de dire aujourd'hui encore que si entre le président du conseil et le président de la République, donc il y a alternance. C'est pas compris quoi. C'est difficile. Merci, bonne
journée. D'accord, allez, bonne journée à toi aussi. 90-86-35-35. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Bon, je vais bien.
C'est Évangéliste Senghor.
Voilà. Mmh. Bon, je vais saisir le côté pour. Dis merci à mon frère Firmin. Firmin, merci beaucoup au moins pour aujourd'hui. Vous avez fait une très belle proposition. Si le chef de l'État peut vous écouter, ça peut diminuer un peu la tension en 2020. Ça, c'est une vérité avec le conseil journaliste. Bon, moi, je voudrais quand même m'intéresser encore toujours pour mes 20 francs, mes misérables 20 francs. Donc, il y a mon frère, le journaliste, qui dit que non, le gazole à 80 francs. Non, vous savez, vous, les journalistes, ne voyons pas la vérité, vous allez les contourner à cause de votre mangement. Non! Vous êtes comme les pasteurs et les évangélistes. Il faut demeurer dans la vérité. Vous voyez, il y a certaines choses que font les filles, n'est pas au courant. Hein. On me nomme ministre, je savais que c'est une dame ou c'est un homme, ministre du commerce. Automatiquement, quand elle est arrivée, elle doit quand même organiser ou bien former une équipe quand même de contrôle de prix. C'est très important. Mais voilà que chacun dit, bon, ok, on m'a nommé, je vais prendre mes millions, je vais manger, je vais faire toute chose. Mais tout ça, là, retourne au dos du président de la République. Je vous dis, et je vous dis tout le temps qu'il y a des gens qui sont au pays qui ne veulent pas que ça change. Sinon, la situation est tellement difficile. Et on veut faire une augmentation de 20 francs. C'est tout ce que vous déjà. Hein? Mais ce n'est pas normal. Pour terminer, vous voyez, tous les actes que nous posons là, il y a un retour. Hein. Quand Évangéliste Senghor est mort, il est dans un cercueil, on appelle les pasteurs, on appelle les curés, on appelle les monseigneurs, on veut trouver, ça ne donnera rien. Ce que l'Évangéliste Senghor a posé comme des actes, c'est ça qui va raconter.
Ok, merci.
Bonjour des bons actes. Et qu'est-ce qu'on va recevoir un jour?
Merci, Évangéliste Senghor, pour votre intervention. 90-86-35-35. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce vendredi. Allô?
Bonjour.
Oui, oui, bonjour.
On est toujours là, quoi.
Oui, c'est madame ici.
L'émission, oui, c'est ici.
Allez-y.
Voilà. Tout le monde au Togo vient de la France. D'après ce que je comprends, parce que c'est Bobo qui a installé le régime depuis 1963. Et puis, il lui a flanqué sa constitution qui lui dit de respecter les droits de l'homme, allocation, alterner 5 ans, machin, tout ça là. Et maintenant, on en est là où ça refuse d'alterner. Et maintenant, je vais demander à Firmin, à vous tous là-bas, là, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils font de la réelle politique ou c'est quoi? Ou c'est ce que je pense qu'ils sont en train de nous faire ici? C'est ce que je pense, je sais pas. Et puis, c'est vrai que ce peuple, la majorité, est ignorante, quoi. C'est pour ça, ça joue dessus, ils sont là jusqu'à présent. Et puis, voilà, je vais demander une question à Firmin, sur une radio. Combien d'enfants au FREC a? C'est sûr qu'il doit avoir la réponse parce qu'il a une agence qui traite ces genres de trucs-là. hein, pour pas que ça fatigue la Côte d'Ivoire tant. Et puis, pour l'histoire de l'essence, moi je vous dis tous les jours qu'on peut acheter le litre d'essence à 250 francs maximum au Togo. Je vous l'ai dit, vous ne connaissez pas une folle, je ne sais pas. Mais on peut l'acheter comme ça. Et puis, voilà, on va gagner 4 trucs, le ciment à 25 000, 30 000 maximum la tonne. Tout le reste. Et si les gens sont là, si les gens ont pu cautionner 2005, c'est pour l'argent et le pouvoir. Moi, on ne va pas courir pour ça, quoi. D'accord. Vous n'avez qu'à comprendre tout déjà d'alterner.
D'accord, merci. D'accord, merci. Merci, madame Essie, pour votre intervention. Et madame Essie est la dernière auditrice pour le compte, alors, de cette émission de ce vendredi. Nous allons, revenir en plateau et faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Mais nous avons commencé cette émission avec la musique. On va également clôturer avec la musique. Nous avons une artiste également qui est avec nous. C'est Elias. Elias, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Ça va, je rends grâce.
D'accord, je sais qu'il y a un événement qui nous attend déjà cet après-midi au Centre culturel Mivar. Qu'est-ce que c'est exactement?
C'est un événement inédit, je le dirais. C'est un lancement d'album. Le titre, c'est Ascensant. C'est un album consacré aux droits humains et à l'engagement citoyen. Donc, l'album aborde sur 11 pistes plusieurs thématiques comme les violences basées sur le genre, la protection de l'enfant, la protection de l'environnement, la paix, l'égalité et autres thématiques en fait qu'on retrouve cet album. Donc, c'est ce soir qu'on lance.
D'accord. Et c'est quoi le rythme utilisé? Est-ce que c'est de la tradi ou c'est de la tradi moderne? C'est quoi concrètement?
C'est du Ascensant.
C'est du Ascensant, ça veut dire un peu de tout.
On retrouve de la tradi, comme vous l'avez dit, la tradi moderne. On retrouve beaucoup de rythmes en fait de la salsa. Vous voyez, c'est donc un mélange, une mise qu'on a fait qui va vous transporter et puis vous faire vivre de très bons moments de musique tout en écoutant de bons messages. Parce que c'est ça aussi qui est très important avec cet album. Ce n'est pas juste de la musique que nous avons fait, mais nous avons essayé de faire passer des messages concrets pour impacter et apporter un changement.
Comment ça va se passer cet après-midi au Centre culturel Mivar?
Au Centre culturel Mivar cet après-midi, ce sera moi devant avec l'équipe et ensuite les journalistes.
Ça serait du live?
Oui, bien sûr, je ne suis que live, parce que c'est ça même l'information par rapport à l'album.
Tout
majoritairement enregistré en live en studio, dans des studios ici au pays.
Donc, d'abord.
Ouais, beaucoup de travail qui a été fait derrière, et aujourd'hui on fera encore une prestation en live, toujours, avec l'équipe d'instrumentistes, et puis on va bien les faire, on espère que le public va sortir pour qu'on les fasse ensemble.
Mmh. Et c'est à partir de quelle heure?
À partir de 16h. 16 heures précises.
Au Centre culturel Mivar.
Oui.
Je posais la question, comment ça va se dérouler déjà quand on prend les hostilités, comment ça va se dérouler quand vous viendrez sur scène?
Déjà, premièrement, il y aura des questions, comme je l'ai dit. Après, il y aura la prestation. D'abord, l'écoute aussi de l'album, parce qu'il faut que les gens découvrent l'album. Ce soir, il y aura donc deux ou trois chansons que nous allons prester. Nous n'allons pas tout découvrir, nous n'allons pas tout dévoiler. Parce que après aujourd'hui, il y a plusieurs dates, en fait, que nous avons prévues pour le mois de décembre. Donc, il y a le 13 aujourd'hui, il y a le 15, où on sera à la Maison des Jeunes d'Amanda Romé, avec des jeunes, pour montrer l'album encore, une prestation, là, un petit concert. On sera encore le 21 à Balépédo, pour toujours la même prestation. Et le 26, on sera donc à un grand concert à l'hôtel Yoka, ici, ce jour à Lomé, pour toujours démontrer l'album et faire une prestation live.
Un message aux auditeurs pour les inviter à cette rencontre fatidique cet après-midi.
Vous aimez la musique et vous aimez surtout les bonnes causes, parce que c'est de ça qu'il est question. N'hésitez pas à faire le déplacement de l'espace MIVA, l'espace culturel MIVA, Sisa Todman. Venez pour qu'ensemble nous puissions célébrer la musique et surtout partager les valeurs citoyennes.
D'accord. Merci beaucoup, Elias, d'être passé. Alors, dans cette émission, chers confrères, nous allons faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Germain Pouli, pour clôturer l'émission.
Mais moi, je fais. Il y a les cartons toujours.
Oui, mais c'est les notes. C'est les notes maintenant.
Un carton vert pour le.
Non, DG, c'est les notes.
Pour le DG Alexandre Deschouza de la du Centre Togolais des Expositions et Foires de Lomé. Pour le succès de cette foire internationale de Lomé que j'ai eu l'occasion de visiter. Ça a été un très grand rendez-vous. Et chapeau à l'organisation et également à tous ces exposants nationaux et internationaux qui ont contribué à la réussite de cette foire internationale de Lomé.
D'accord. Firmin?
Non, moi je voudrais dire que merci à Canal FM. qui nous permet de faire un débat démocratique. Ici, on critique le pouvoir, on apprécie ce qu'il fait de bien. Les auditeurs aussi se permettent de nous critiquer avec véhémence. Moi, je dis que c'est la démocratie qui est en marche. Mais la meilleure des choses, c'est quoi? Il faudra que les auditeurs apprennent les principes de la démocratie pour ne pas se jeter dans des mots qui ne les honorent pas. Sinon, nous, on est là, on peut nous critiquer, on peut nous dire tous les mots. Mais ça ne nous dit absolument rien. C'est la démocratie qui est en marche. Bravo, Canal FM, bravo le Togo.
Merci.
Qui est toujours dans la démocratie.
Merci, Firmé. Et Gabin?
Oui, juste dire aux auditeurs d'accepter le débat contradictoire. C'est ça même le sens de la démocratie. Nous sommes en fin de semaine.
Tout à fait.
J'aimerais demander à tout le monde d'être assez prudent sur la rue. La fête, ça dure juste 2 jours. Il ne faut pas se mettre la pression inutilement aussi. Et au gouvernement de tout faire pour que les prix soient réellement baissés effectivement sur le marché.
D'accord, merci beaucoup. Kofi ?
Oui, Pascal, moi je vais dire quelque chose par rapport à une situation que j'ai observée qui m'inquiète en tant que citoyen et que je considère comme étant un danger pour nous en tant que nation, s'il m'est permis de le faire. Dans les années 2000, quand on était encore des collégiens, vous observez que au niveau de 19h, 20h, vous voyez des élèves avec les cahiers dans les coins recoins qui sont en train d'étudier. Mais aujourd'hui, bon, c'est un constat que j'ai fait dans ma zone.
Oui.
Vous voyez des élèves.
C'est votre zone, la zone, c'est où?
Moi, je vis à Kogan, Bobagotiko. Vous voyez des enfants se réunir au niveau des points de vente de CD où on diffuse des films ou devant des bars à danser et à chanter aux heures où ils devraient plutôt s'atteler à leur cahier. Moi, je veux lancer un appel humble au CDQ, au comité de quartier, de faire en sorte de faire quelque chose pour adresser cette situation-là qui ne nous honore pas et qui constitue un danger pour nous.
Mmh. Ok, merci beaucoup, M. Kofi, d'être passé dans cette émission. Gabin Adjarou, merci d'être passé dans cette émission. Fimet Akouagbo, merci d'être passé aussi dans cette émission. Jamais Pouli, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle tout simplement que il y a notre artiste Elias qui a un concert cet après-midi à partir de 16h au Centre culturel. Il va ensemble, nous serons avec lui pour ce moment de gaieté et de joie. Merci à vous et sans oublier également que Emilio a aussi son concert le 22 prochain et bien sûr et c'est avec des artistes, beaucoup d'artistes qui seront sur le plateau ou la scène avec lui. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelé aussi. Kiki Sousa a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end.